Vous écoutez
RMC.
Seul contre tous aujourd'hui, Mathieu Van Der Poel, il a étouffé littéralement la concurrence en plantant sa banderille dans les terribles pourcentages du Koppenberg à 45 km de l'arrivée. Personne ne l'a revu. Une heure plus tard, l'arc-en-ciel peut surgir et il va pouvoir lever les bras dans quelques instants ici sur la ligne d'arrivée. C'est lui l'empereur ici de Donnard, l'empereur des Flandres, l'empereur du rond 2, Mathieu Van Der Poel, qui va carrément descendre de son vélo sur la ligne d'arrivée. L'image est saisissante pour l'histoire. Fabuleux Mathieu Van Der Poel qui soulève son vélo et qui le tient à bout de bras. Mathieu Van Der Poel est tout simplement unique, victorieux ici du round 2.
RMC Bartoli à la folie.
Ouais, magnifique image, hein, incroyable Mathieu Van Der Poel.
Comme
il était
Philippe Gilbert,
exactement l'archi favori de cette course et il a assumé son statut. En direct de Belgique, Arnaud Souk est avec nous, notre commentateur. Bonsoir Arnaud.
Salut les amis.
Bonsoir Arnaud.
Alors non, on va pas se mentir, hein, c'était pas le plus grand des Tours des Flandres de l'histoire, mais quel succès incroyable.
Hein. Quand même
quel succès quand même, Van Der Poel, il entre un peu plus dans l'histoire.
Ouais, ben bah oui, parce que troisième succès sur le Tour des Flandres, bah voilà, il y avait six coureurs avant lui qui avaient réussi ce triplé sur cette épreuve qui est l'une des plus dures, hein, du calendrier. Il y avait notamment pour les plus récents, on va dire Johan Museeuw, Tom Boonen et Fabian Cancellara. Il rentre donc dans ce club très fermé des désormais sept triples vainqueurs du Tour des Flandres. Donc voilà, ça marque encore un petit peu plus l'histoire, mais avec Mathieu Van Der Poel, on avait l'habitude. C'est vrai que tu l'as dit, c'était pas le plus beau Tour des Flandres, mais dans le sens où il manquait de suspense. Après, voilà, on aurait eu Wout Van Aert, on aurait Tadej Pogacar, ça aurait peut-être été différent, mais saluons la performance de Mathieu Van Der Poel qui était tout simplement intouchable et lui il a fait ce qu'il avait à faire en attaquant à 45 km de l'arrivée.
Et tu l'as retrouvé après la course, on va écouter Mathieu Van Der Poel, le grand gagnant.
Je suis vraiment cramé, je pouvais plus rien faire les 10 derniers kilomètres, c'était juste, j'ai presque fermé les yeux pour rentrer, j'étais vraiment à mon limite. C'était vraiment très dur avec la pluie et les températures aujourd'hui. C'était un des plus dures courses que j'ai fait déjà. Surtout le plus dur round que j'ai fait. Je suis très heureux de gagner dans ce maillot. Ma saison, elle est fantastique maintenant.
La saison est fantastique, c'est vrai. Marion, on a l'impression que tout est simple pour lui, mais il faut quand même dire. Le Tour des Flandres, c'est un monument et c'est une course incroyablement difficile.
Exactement, et puis je l'ai suivi toute la journée. Il y a eu vraiment une météo extrêmement compliquée, énormément de pluie. Moi, les images qui m'ont marqué, c'est qu'il y a eu beaucoup de coureurs qui, justement, dans le Koppenberg, n'arrivaient pas à rester sur leur vélo et à pédaler. On était obligés de descendre, de pousser leur vélo tellement ça glissait, c'est sur les pavés, bien évidemment. En plus, ils n'arrivaient pas à développer assez de puissance musculaire pour arriver à monter ces pavés sans descendre du vélo. Donc, l'exploit qu'a réalisé aujourd'hui Mathieu Van Der Poel est absolument incroyable. Petite anecdote, alors je pense qu'Arnaud l'a bien évidemment vu, c'est l'erreur quand même de la Jumbo, alors même si ça n'a pas eu une incidence en tout cas sur la victoire parce que Mathieu Van Der Poel était déjà parti, mais l'erreur de lui donner de mauvais vélo à Benoît, où il se trompe, il lui donne le vélo de Dylan Van Baarle, donc pour une équipe qui effectivement normalement est très très au point sur tout ce qui est petits détails logistiques, là il y a eu quand même une faute assez énorme, mais c'est vrai qu'aujourd'hui Mathieu Van Der Poel a été tout simplement stratosphérique et a totalement écrasé la concurrence.
Il était au-dessus, mais signe de fébrilité, non, de la Jumbo, Arnaud?
Oui, signe de fébrilité, tout est relatif. Après, sans Wout Van Aert, enfin, tout est relatif, bien sûr, c'est quelque chose qui est assez étonnant de la part des Néerlandais, mais sans Wout Van Aert, en fait, il manquait à la Visma Liesebike sa principale cartouche, tout simplement. Et Tiche Benoot, oui, c'est un bon Flandrien, mais le Tour des Flandres, c'est quand même un parcours et un profil très, très particulier. Voilà, la réalité, c'est que Jorgensen a été l'un des seuls à réussir à suivre Mathieu Van Der Poel dans le Koppenberg. Il a basculé en haut du Koppenberg avec quelques secondes de retard. Il a essayé pendant quelques minutes de revenir sur lui. Il a réussi à maintenir un écart à 5, 6, 7 secondes et puis d'un coup il a explosé en vol. Mais ça veut dire une chose, ça veut dire que Mathieu Van Der Poel était vraiment une jambe au-dessus de tout le monde, en tout cas jusqu'à 10 km de l'arrivée, puisqu'il a dit après que dans la suite de l'interview que vous avez diffusée il y a quelques instants, que à 10 km de l'arrivée il en pouvait plus, quoi. Enfin vraiment, ouais. Qu'il avait jeté ses dernières forces pour soulever son vélo justement sur la
au
ligne.
Au bord d'épuisement.
Rapide bilan des Français sur ce Tour des Flandres. On n'attendait pas forcément Monts et Merveilles. Valentin Madouas, voilà. Et puis Julien Alaphilippe qui, on s'y attendait. Il l'avait dit d'ailleurs à ton micro, hein, il y a quelques jours. Il ne s'attendait pas à remporter cette course.
Ouais, pas de miracle, hein. Il disait, Julien Alaphilippe, il s'attendait pas à des miracles. C'est pas qu'il n'ait pas les jambes, Julien Alaphilippe, mais il a un souci, on va dire, voilà, un petit peu plus problématique, qui a fait qu'aujourd'hui, sur les pavés, c'était vraiment très compliqué, ça lui faisait mal, Julien Alaphilippe. Donc, c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui, il termine à plus de 7 minutes. Je sais plus exactement dans quelle position, mais il termine à plus de 7 minutes. Saluons, la performance de Valentin Madouas, malgré tout, qui termine 16e. Voilà. C'est loin, hein, de la 3e place qu'il avait prise il y a 2 ans sur ce Tour des Flandres. Mais bon, quand on voit les conditions, et Marion, tu les as soulignées, apocalyptiques du jour, voilà, une 16e place, c'est pas si horrible que ça.
Et tu as retrouvé également Julien Alaphilippe après la course, on l'écoute.
Je me suis retrouvé devant un moment après vraiment dans le final, j'avais toujours du mal à me placer, c'était un peu compliqué, je commence à choper froid, enfin voilà. C'était pas. Après, j'ai perdu un peu le fil de la course, quoi.
Merci Arnaud, on te retrouve.
Oui, il a fini 10e.
Merci les amis.
Il a fini à 7 minutes 43 secondes.
Ouais, on te retrouve.
10e, non. Non,
70e.
Plus, je pense.
70e.
Ah, 70e, oui, d'accord.
Oui.
Ok.
À 7 minutes 43.
Malheureusement pour lui. Merci beaucoup Arnaud, et on te retrouve très vite sur RMC. Merci pour cet après-midi du Tour des Flandres. Et notamment la semaine prochaine, dimanche prochain, Paris-Roubaix, émission exceptionnelle. Les grandes gueules du sport seront en direct de Compiègne pour vous raconter cette course. Ce sera le départ de Paris-Roubaix, donc dimanche prochain. Alors, les Français, vous l'avez bien entendu, n'ont pas brillé en Belgique, mais il y en a un qui flambe aux États-Unis. Il s'appelle Léon Marchand,
lui,
vous
le
savez
brillé,
très bien.
Je te confirme.
Et il est en train de rendre dingue les Américains. On retrouve notre envoyé spécial à Indianapolis pour les finales universitaires qui viennent de s'achever. Julien Richard, bonsoir Julien.
Bonsoir Marion, bonsoir JC.
3 victoires individuelles, 3 records à la clé. Bref, notre nageur français a été cette semaine une nouvelle fois stratosphérique.
Oui, et sa dernière course hier soir est assez marquante peut-être. C'est pas un record, mais je trouve ça très parlant. Léon Marchand est au départ du relais 4x100 nageur. Il est face au meilleur sprinter de la compétition. C'est pas son royaume là, au français. Eh bien, il va toucher premier, troisième performeur de l'histoire sur 100 nages libres dans une même compétition. Il a donc été capable de faire le match sur du sprint. Hein. Il a aussi nagé d'ailleurs le 100 brasse le plus rapide de l'histoire dans un relais. Capable d'exploser de près de 4 secondes le record du 500 yards nage libre, une épreuve qu'il découvre depuis peu, capable d'assommer la concurrence sur ses courses fétiches aussi, le 404 nage, le 200 brasse, 3 records universitaires battus, même lui, c'est un peu bluffé lui-même.
Surpris sur quelques courses, ouais, notamment parce que je pensais pas être capable de faire ça, et surtout de le répéter pendant 3 jours, c'est très intense, et même le dernier relais, au final, je fais un super temps, donc j'ai vraiment réussi à bien gérer mon énergie au fur et à mesure de la semaine, et donc ouais, je suis surpris, c'est trop bien.
Léon Marchand a véritablement porté son Université d'Arizona State vers un premier sacre historique. Trophée à la main hier soir, on l'a longuement vu savourer avec ses coéquipiers hier. Bob Bowman, l'entraîneur, n'a pas échappé au seau d'eau renversé sur lui par ses nageurs, puis un petit plongeon dans la piscine avec tout le monde. Et c'est aussi la conclusion de ses 3 premières années aux États-Unis, et l'ancien mentor de Michael Phelps a pu mesurer le chemin parcouru par sa pépite.
So much. He's grown from a little boy to a little man.
Il est passé d'un jeune garçon à un jeune homme. Il est génial, il est plus mature, il est évidemment devenu plus fort. Ses entraînements sont de mieux en mieux parce qu'il s'applique. Donc oui, il a bien progressé.
Ce qu'il faut aussi peut-être noter, et nous, vu de France, ça va nous paraître un peu abstrait, c'est pas vraiment notre culture, mais ce que l'on a aussi vu ici, c'est que Léon Marchand a endossé un nouveau rôle de leader, un rôle de modèle pour ses jeunes coéquipiers dans ce programme-là universitaire. Et au-delà de ce qui se passe dans l'eau, c'est aussi une carte importante pour lui pour la suite.
Ouais, Marion, il arrive encore à t'impressionner, Léon Marchand?
Oui, absolument. Et puis moi, ce que je trouve incroyable et ce qui me fascine en lui, c'est sa capacité à avoir une éthique de travail absolument exceptionnelle. Chez aujourd'hui, Michael Phelps a autant de respect pour lui, c'est parce que justement, il a compris, il a vu aux côtés de Bob Bowman la capacité de travail qu'avait le Français. Il a énormément progressé, il s'est beaucoup musclé, il a gagné énormément en puissance. C'est pour ça que son crawl est devenu bien meilleur. Ses coulées aussi sont bien meilleures. Donc au-delà de battre tous ses records, moi, c'est surtout son niveau de natation et sa capacité d'amélioration qui m'impressionne énormément. Et puis il avait quand même énormément de pression sur les épaules. Alors on en parlera certainement aussi des JO qui vont arriver, cette pression qu'il va avoir, mais le NCAA aux États-Unis, c'est quelque chose qui compte énormément, surtout lorsqu'on représente une université. Il est arrivé à 3 ans dans l'université de Temple en Arizona. l'Arizona State qui était 12e au classement national, qui avait absolument aucune chance d'être champion NCAA. Aujourd'hui, il soulève le trophée en grande partie grâce à Léo Marchand d'être capable à son âge d'assumer autant de choses. Moi, ça m'impressionne énormément. Et puis lorsque j'entends les voix de la natation s'enthousiasmer, en particulier Roddy Gaines qui dit de Léo Marchand de voir en lui le meilleur nageur de la planète actuellement, c'est forcément quelque chose qui nous réjouit énormément en tant que Français.
Oui, mais Julien, justement, pour les Américains, pas de doute, il va devenir une légende. En tout cas, ils sont tous fous de lui.
Oui, alors je l'ai un peu répété toute la semaine, mais c'est vrai que cette March Madness, hein, la folie du mois de mars ici, s'est transformée en...
Marchand Madness.
En folie, Léon Marchand. C'était clairement l'attraction par tout ce qu'on a dit précédemment. Donc sportivement, sa palette de courses incroyable. On a pu constater d'ailleurs que ça commençait à sortir aussi du cadre purement du petit monde de la natation. Une journaliste du New York Times était là, par exemple, pour voir le petit Français qui cartonne aux États-Unis. Et puis, on retient ce que nous a dit Roddy Gaines, ancien champion olympique du 100 mètres.
Oh my goodness!
Aujourd'hui consultant, il est la voix de la natation aux États-Unis.
He's the best swimmer in the world.
C'est le meilleur nageur du monde. Il sait absolument tout faire. Il y en a un comme lui par génération. On a eu Michael Phelps, Mark Spitz, Johnny Weissmuller. Et là, on a la génération Léon Marchand.
But now we've got the Léon Marchand.
Léon Marchand!
Roddy Gaines qui avait décroché 3 titres olympiques à domicile à Los Angeles en 84 et qui nous a dit qu'il voyait le Français décrocher 4 titres olympiques à Paris, qu'il fallait qu'il se serve de l'amour que va lui envoyer le public français.
Bon Julien, c'est quoi la suite là pour Léon Marchand? Il reste 4 mois avant les JO, c'est court mais bon, c'est long aussi parce que nous on l'attend là Léon Marchand.
Alors Léon Marchand est rentré très tôt ce dimanche matin à la maison à Tempe dans la banlieue de Phoenix. Retour à l'entraînement très vite, hein, la tête vers Paris. Première compétition en grand bassin, donc en bassin olympique, dans 2 semaines à San Antonio au Texas. Quelques examens fin avril, un long stage ensuite en altitude à Colorado Springs et puis retour en France. Une grosse semaine avant les sélections olympiques qui auront lieu mi-juin à Chartres.
How do I imagine his return to France?
Un retour au pays déjà bien cadré par Bob Bowman.
As late as possible.
Aussi tard que possible, dans le cadre le plus privé possible. C'est mon but, donc je le garde ici le plus longtemps possible et j'essaye de le cacher de vous le plus longtemps que je puisse.
En France, il fera sans Bob Bowman, hein, qui le rejoindra après les sélections olympiques. Lui sera sur les sélections américaines. Il s'entraînera avec Nicolas Castel à Toulouse, son entraîneur. Un retour un peu sous cloche, hein. Il sera chez papa-maman Céline et Xavier, qui était là cette semaine avec le petit frère.
Ah, on n'a pas besoin, il est tout le temps sous cloche. Il va falloir qu'on limite, évidemment, parce que c'est... L'objectif, c'est quand même qu'il soit quand même assez frais, qu'il soit disponible pour nager vite. Le seul objectif, c'est qu'il puisse nager vite. Donc oui, on va essayer de gérer ça comme ça, mais comme on fait depuis 2-3 ans maintenant, quoi. Donc voilà.
La dernière ligne droite est lancée. Maintenant, il reste un peu moins de 4 mois. Le temps aussi pour Bob Bowman de parfaire son français.
Léon est un nageur merveilleux.
Nageur merveilleux, merci Bob Bowman et Julien Richard. C'est vrai Marion, c'est très intéressant ce que dit sa famille, ce que dit son entraîneur. Là, va falloir le couver, là. Il faut pas trop l'exposer à la France parce que il va devoir assumer un statut incroyable déjà pour son âge, il a 21 ans.
Oui, totalement, mais je crois justement qu'il est parfaitement bien entouré parce que Bob Bowman est un maître dans la gestion de tout ça, c'est-à-dire le temps passé en dehors des piscines, le temps consacré aux médias et puis le temps consacré à la concentration nécessaire avant de plonger et de réaliser ses courses. Phelps a nagé 17 fois en 8 jours au JO de Pékin en 2008 et on connaît ses résultats sur ces JO-là, donc Bob Bowman va être parfaitement amène pour moi de gérer et d'apprendre à gérer à Léon Marchand ses temps forts, ses temps faibles, apprendre à récupérer, apprendre à pas être sursollicité par les médias, de rester dans une bulle pour arriver à performer. Après, pour moi, il sera le grandissime favori sur le 200 mètres 4 nage et 400 mètres 4 nage. On sait qu'il va tenter s'aligner sur plus de compétitions, en particulier de 200 mètres brasse, où il y a un Chinois qui, pour l'instant, est détenteur du record du monde, qui s'appelle Qin Heyyang. Donc, ça sera je pense un peu plus difficile à aller le battre. Il y a le 200 mètres papillon qui est aussi largement jouable. J'en ai parlé au niveau de sa puissance. Il a beaucoup progressé. Donc, pourquoi pas sur le papillon et sur le crawl aller chercher d'autres médailles. Mais pour moi, il est parfaitement entouré. Et puis surtout, il a la capacité lui-même, parce qu'il nous a prouvé déjà d'aller faire de très grands Jeux Olympiques à Paris et de régaler le public. Je pense qu'il va se servir de toute cette énergie. Je pense que la piscine de la Défense Arena va être complètement pleine. Michael Phelps disait que quand il était sur des compétitions aux États-Unis, se servir de toute l'énergie du public qu'il a ressenté dans chaque muscle de son corps. Je pense que ça va être la même chose pour Léon Marchand à Paris.
Bon, on attend et on guette son retour évidemment à Léon Marchand en France. Merci beaucoup Julien Richard. Richard, d'avoir été avec nous en direct.
Merci,
des
Julien.
États-Unis, et bon retour toi aussi en France. Tu vas voir, il y aura moins de journalistes pour t'accueillir, mais on sera là et on sera très heureux aussi.